L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire, l'heure de pointe. J'ai le plaisir de vous accompagner cette semaine pour ce tout nouveau rendez-vous avec moi en studio, deux chroniqueurs, deux nouvelles voix qui seront à mes côtés toute l'année. Andy Barégeau, journaliste à la Dépêche du Midi. Bonjour Andy.
Bonjour Anne-Rose, bonjour à tous.
Gérard Crozat, diacre dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et une voix bien connue, celle-ci, sur l'antenne de Radio Présence. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Et puis en studio également avec nous, notre invité de la semaine, Michel Ricot, président de la Banque Alimentaire des Hautes-Pyrénées. Nous parlerons avec vous, Michel Ricot, de l'appel lancé par le réseau des banques alimentaires. Pourquoi, comment, vous allez tout nous dire. Merci d'être là avec nous.
Bonjour.
Pour l'heure, c'est la première partie de notre émission et nous allons faire un tour de table comme prévu pour relever un petit peu les sujets d'actualité qui nous ont marqués, qui vous ont marqués, interpellés cette semaine. On va commencer avec vous, Gérard Crozat. Quel est le sujet dont vous voulez nous parler cette semaine?
Ben, ce qui m'a marqué, c'est justement les visites. Alors, je le mets au pluriel, celle qui est en train de se dérouler maintenant à Paris. Alors, peut-être que c'est ma déformation professionnelle. Et puis, allez, je vais faire mon coming out, mon anglophilie.
Vous étiez prof d'anglais.
Oui. Et qui me permet de m'intéresser comme ça à la visite du roi Charles à Paris. Et puis, dans deux jours, ça sera la visite du pape. Alors, outre le fait que ce sont des visites officielles, alors on dit de tout, on dit que bon, ça coûte cher, qu'il vaudrait mieux donner l'argent à d'autres, etc., etc. Et sans doute que M. Ricot peut-être me contredira pas, mais je crois qu'il y a dans ces, au moins ces deux événements-là, il révèle en fait peut-être enfin une Europe où on va circuler. On est dans un monde où on crée, alors on a eu à une époque des masques, on a créé des frontières, on refuse que certains passent les frontières, on se calfeutre de plus en plus entre pays, et je crois que deux chefs d'État viennent, et puis pour le premier, on a entendu ce que le roi Charles a dit ce matin au Sénat en encourageant nos deux pays à fêter l'année prochaine l'entente cordiale, les 120 ans de l'entente cordiale, et puis renouveler un peu les liens qui resserrent ces deux pays, notamment pour l'écologie, l'économie aussi bien sûr, mais on est en train de vivre une sorte de réconciliation parce qu'il y a eu le Brexit. Bon, ça mériterait de faire un grand débat sur le Brexit.
Mais pour vous, en tous les cas, ces visites et celle-ci, celle du roi d'Angleterre, marquent vraiment un nouveau départ la vie ensemble.
Je crois. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Alors, j'étais ce matin avec des Anglais Et les Anglais sont tout aussi partagés. Il y a ceux qui disent « Mais non, il vaudrait mieux donner l'argent quand même aux pauvres plutôt que d'organiser ce genre de choses. Vous ne vous rendez pas compte, une table de 60 mètres pour le repas. » Et puis d'autres, au contraire, qui disent « Mais c'est bien parce que voilà, on est en lien. »
Ça, justement, vous en pensez quoi, vous, Michel Ricot, vous qui êtes président de la Banque alimentaire dans les Hautes-Pyrénées?
Ben, moi, je partage votre point de vue. Je pense aussi que c'est bien. Même si, c'est vrai, on pourrait penser que... Il y a des besoins par ailleurs et qu'il vaudrait mieux que cet argent-là parte dans d'autres domaines. Ça, c'est une réaction qu'on peut bien sûr avoir. Mais à côté de ça, je pense que recevoir le roi d'Angleterre, c'est quand même un grand honneur. C'est quand même une personnalité remarquable qui a un impact fort aussi sur notre pays.
Et puis on a besoin
et
aussi
d'entretenir. Nous avons toujours eu des relations quand même avec l'Angleterre, c'est historique. Ah oui. Donc je pense aussi que c'est très bien qu'on le reçoive avec les honneurs qu'il mérite.
Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, moi c'est ma question quand même, parce qu'on est quand même à un moment où on n'a jamais été aussi loin des côtes anglaises, j'ai envie de vous dire, parce que aujourd'hui, ne serait-ce que pour vous déplacer en Angleterre, il faut réactiver un passeport. On a l'impression qu'on... Justement, on a reculé quelque part dans cette amitié franco-britannique et que finalement, le roi, certes, a son rôle, lui, je vais dire un petit peu d'ambassadeur, mais qu'au final, il est peut-être un peu à contre-courant de la politique qui est celle menée dans son pays et qui vise pas forcément à se rapprocher de l'Europe, un peu au contraire d'ailleurs.
Alors, moi, je répondrais ceci, c'est vrai, dans un sens. C'est vrai. Bon, on sait en même temps que le discours qu'il a prononcé ce matin s'est fait quand même avec la connivence du Premier ministre. Et on sait aussi, enfin, on pense, on subodore qu'il va y avoir un changement de gouvernement bientôt. Et bon, les spécialistes disent que c'est le gouvernement travailliste qui va prendre le pouvoir.
Plutôt de gauche. Ouais.
De gauche. Et donc la gauche est encore plus proche de... Mais ça serait intéressant. Moi, j'ai ma propre interprétation du Brexit. J'étais en Angleterre au moment des votes pour le Brexit. Et avec toute la souffrance que ça a pu provoquer quand même à la majorité des peuples. Hein, bonsoir à certains partis, puis on sait lesquels. Et un certain Premier ministre aussi, on sait lequel. Mais et je crois que justement, c'est bien peut-être... Alors, d'une manière, il y a un éloignement. C'est vrai qu'il faut le passeport, etc. Mais en même temps, et maintenant, ben voilà, on se dit il faut recommencer. Il faut redécouvrir ce que c'est que l'entente cordiale. Et je crois que c'est... Pour moi, je m'en félicite. Mais...
Et puis c'est son rôle au roi d'Angleterre, précisément. On n'attend peut-être pas de lui qu'il révolutionne l'économie ou les relations économiques entre la France et l'Angleterre, mais précisément qu'il illustre cette envie de créer ou de recréer une amitié entre les deux pays.
Voilà. Puis la deuxième visite, c'est celle du pape. Bon, on va attendre, mais enfin, on sait déjà ce qu'il va dire.
Ah bon, bah alors écoutez, vous êtes dans les... Vous savez déjà ce que va dire le pape François.
Ben, je me doute que ça va être quand même qu'il va beaucoup plaider pour la dignité de l'homme.
Mais déjà qu'il vienne à Marseille. Il vient en France, il choisit Marseille.
Il choisit Marseille. D'ailleurs, on dit
qu'il aurait pu choisir Lourdes.
Il aurait pu choisir beaucoup d'autres lieux en France, mais il va à Marseille et ça en dit long.
Ça en dit long. Et on dit qu'il ne vient pas en France et qu'il vient à Marseille, d'ailleurs.
Oui.
C'est intéressant. Et je crois que, pareil, il vient pour nous dire aussi qu'il faut abattre certaines frontières. Il faut arriver à faire un véritable accueil, accueillir l'autre, reconnaître que l'autre est son frère. Alors, reconnaître que l'autre est un frère, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, etc. Mais ça veut dire, je sais que tu es d'égale dignité, et comment je vais me battre pour que l'autre, et tout particulièrement le pauvre, et je crois que... Monsieur Rico aura l'occasion de le dire tout à l'heure, vive dans cette dignité-là. Donc je crois que c'est aussi, sa place sera aussi importante.
Alors vous avez peut-être entendu ce témoignage sur une autre radio cette semaine d'une femme qui habite pas très loin de Marseille et qui disait que, elle, a priori, elle n'était pas du tout favorable à l'arrivée de migrants, que son cœur balançait plutôt d'un autre côté en disant il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. Et que finalement, elle a été prise un petit peu au dépourvu quand elle a vu dans sa rue un jeune de 16 ans qui était complètement perdu, seul. Et en fait, elle l'a pris vraiment sous sa protection, elle l'a aidé, elle lui a appris le français. Et elle avait ce discours, ce témoignage de dire en fait, j'ai mes idées politiques, peut-être un peu préconçues. Et puis, il y a la réalité, c'est que, en fait, quand ils sont là, mon cœur s'ouvre et que je ne peux pas ne rien faire pour ces gens qui sont là, qui ont faim, qui sont perdus. Vous comprenez ça, ce témoignage ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a ça. Et puis, ceux qui peuvent aussi nous apporter. Il y a cette anecdote que racontait quelqu'un qui était un employé des sanctuaires à Notre-Dame de Lourdes. Alors là, on connaît bien. Mm-hmm. Au moment où la grotte a été revue, refaite, où on refaisait le sol, c'était pas praticable. Et est arrivée une famille avec un petit garçon de 4 ans qui, dont les jours étaient comptés, hein, avait la maladie qu'il avait. Et les parents voulaient qu'ils touchent la grotte. Et les gardiens ont dit, on est désolé, c'est pas praticable, tout est cassé autour de la grotte, vous pouvez pas y aller. Mais par contre, allez de l'autre côté du gave et priez depuis le gave. À ce moment-là, il y avait 4 musulmans, 4 ouvriers qui travaillaient à la grotte, 4 terrassiers qui ont appris ça. Ils ont arrêté de travailler, ils sont allés chercher le gamin. Ils l'ont amené jusqu'à la grotte en portant la poussette. Et ils sont allés jusqu'à la grotte pour qu'ils puissent toucher la grotte. Et c'était 4 musulmans. Et je me dis, ça fait partie des miracles de Lourdes, ça aussi, d'une certaine manière.
Merci Gérard Croza. Alors on passe à vous, Andy Barégeau. Le sujet, alors on passe, je crois, d'un tout autre registre.
Tout à fait, tout autre terrain, même si y a quand même des parallèles, puisqu'il y a quand même une vieille histoire franco-britannique derrière ça, puisque ce sport-là nous vient d'outre-Manche. Oui, je voulais vous parler de quelque chose qui nous est cher ici en Bigorre, c'est la Coupe du Monde de rugby. qui se joue chez nous, donc en France. Donc ça fait partie aussi des visites qu'on a en ce moment, puisqu'il y a quand même pas mal de chefs d'État qui ont assisté, dont le nôtre, et dont plusieurs... et d'ailleurs, je crois que le roi doit assister ou a assisté à une rencontre, je ne sais plus. Donc c'est la Coupe du Monde de rugby qui forcément nous concerne au premier plan, parce que c'est un sport qui se pratique ici et qui fait partie de l'identité pyrénéenne, on va dire, même du sud-ouest, et qui en plus met en avant notre territoire cette année avec quand même 3 joueurs formés dans les Hautes-Pyrénées. Donc ça met en avant aussi tout ce travail associatif qu'il y a derrière, parce que derrière ces jeunes qui aujourd'hui sont des stars, hein, puisque bon, par exemple on prend quelqu'un comme Antoine Dupont qui multiplie les contrats publicitaires, qui multiplie les apparitions médiatiques, ça reste un enfant du sérail, ça reste un garçon qui revient à Castelnau-Magnouac dès qu'il le peut et souvent dans la discrétion, et qui a souvent un petit mot pour ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier ou les crampons sur le terrain. Donc tous ces bénévoles, tous ces entraîneurs, ces personnes qui nettoient les vestiaires, qui préparent les casse-croûtes, enfin voilà, tout ce petit monde qui est précieux, et on s'en rend compte aujourd'hui, parce qu'on en parlera sans doute, le bénévolat c'est quand même quelque chose qui, ça a trait aussi à l'humanité dont on a parlé tout à l'heure, qui se révèle chez certains, mais ça se fait peut-être pas forcément naturellement. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, à travers ces garçons-là qui éclaboussent un petit peu l'actualité, ça met en avant aussi tout ce travail qui est celui de tous les jours. Alors c'est la rentrée, les écoles de rugby vont reprendre, les écoles de rugby, les écoles de foot, de basket, tout ce que vous voulez, pour les petits, les petites, les grands, les grandes. Et c'est vrai que c'est intéressant à mettre en avant cette année, puisqu'on va quand même au départ et au début d'une année qui va se terminer avec les JO à Paris, qu'on a tendance à pas forcément encore mesurer, mais qui arrive à...
Ça nous paraît loin, mais en fait...
c'est dans 10 mois, pas. Donc c'est vrai que c'est quand même une première échéance. Alors on a mis un peu en parallèle la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde avec ce que pourrait être les JO. Bon, toute proportion gardée, c'est pas la même échelle. Ça reste qu'une Coupe du Monde de rugby. Alors certes, le rugby s'est développé, c'est universalisé, mais c'est pas encore un sport qui est quand même pratiqué partout, même si on voit aujourd'hui des équipes africaines qui performent, on voit des équipes sud-américaines qui performent, des équipes asiatiques qui performent avec les Japonais par exemple. Je pense que c'est aussi une belle image du sport qui est véhiculée, parce qu'on montre souvent le sport et ses travers, qu'ils soient financiers, qu'ils soient les problèmes de dopage et tout ça. Alors, on n'idéalise pas le rugby, c'est pas... certes, je plaide pour ma paroisse,
On a bien senti, oui, quand même.
Mais c'est vrai qu'au-delà, je pense que c'est le sport. Et dans une société qui est en manque de repères, les sports, qu'ils soient collectifs, qu'ils soient individuels, le côté de se dépasser pour soi, pour le gamin d'à côté, ça reste, je pense, un terrain qui est propice pour tout le monde. Et pour une société qui se cherche, qui cherche des repères... la place du sport, alors on en parle beaucoup à l'école, moi je plaide pour que vraiment le sport à l'école soit quelque chose vraiment de sanctuarisé, et vraiment de... parce que ça développe énormément de choses au-delà de l'aspect physique, et notamment le dévouement, le sacrifice pour l'autre, les efforts pour les autres, les règles, et c'est vrai que c'est quand même assez porteur, je pense.
Donc, c'est une belle école de vie, oui.
C'est ça, donc alors certes, tout le monde finira pas à la Coupe du Monde de rugby, même si on le souhaite, on en a 3 qui seront, on l'espère, dans le 15 de France, qui jouera peut-être une finale de Coupe du Monde dans un mois, c'est quand même bien, ça veut dire qu'on a 1/5 de l'équipe de France qui vient de chez nous, donc c'est quand même assez inédit.
Oui, puis ça motive, c'est un bel exemple aussi pour ces enfants qui sont,
Dans
les
clubs. Clairement, et je pense que ça va se traduire, je pense que les écoles de rugby risquent de faire le plein dans les semaines qui viennent, et peut-être que dans les mois qui viennent, ce seront d'autres disciplines. Je pense à l'escrime qui, chez nous, par exemple, à Tarbes, est quand même un sport qui a rapporté son lot de médailles. Il y en a d'autres, la natation, des sports dont on ne parle pas souvent, le judo, les arts martiaux, enfin, énormément de disciplines qui vivent dans l'ombre, mais qui animent aussi beaucoup de personnes. Et je pense que les JO qui vont arriver aussi seront un tremplin pour beaucoup de disciplines. Et ce n'est que souhaitable
Et c'est vrai que ce sont des disciplines qui sont portées localement par des personnes qui donnent de leur temps, qui se motivent et qui arrivent à motiver d'abord à l'échelle parfois d'un village ou de quelques villages. Et puis c'est comme ça que ça démarre, quoi, très souvent.
Gérard Crozat. juste que ce soit les visites internationales, et effectivement le sport en fait partie, ou les championnats, ben, il y a le même message, il faut jouer collectif, quoi.
Ouais.
Et sinon, on n'arrivera pas à avoir... La Terre n'aura pas d'avenir.
L'équipe.
Oui, puis il y a cette notion de ruralité, de village aussi, de vie des villages qui est importante.
Oui, parce qu'ils ont besoin de s'identifier.
Un club de foot qui se meurt, un club de rugby qui se meurt, c'est parfois des drames dans des villages. Et c'est vrai que ça fait partie de l'identité.
Alors souvent on dit ça de l'école, du bureau de poste.
Oui, mais quelque part. Mais il y a des parallèles, je pense, entre les uns et les autres. Enfin, c'est, et ça contribue à la vitalité d'un coin, clairement.
Monsieur Rico était maire. Donc il sait de
Maire d'Azerex.
Maire d'Azerex, je l'ai été pendant 43 ans. Et moi, je partage votre sentiment. C'est très important que la Coupe du Monde de rugby se passe, mais que ça se passe en plus en France. C'est quand même un événement qu'il faut marquer. Et puis, comme vous dites, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui sont du Sud-Ouest, dont trois dans notre département. Et ça, c'est vrai que c'est important quand on regarde les proportions. Et ça veut dire qu'ici, on est quand même une terre de rugby, parce que c'est le sport quand même qui est phare dans le Sud-Ouest. Mais moi, je veux aussi forcer en disant que c'est aussi... Il y a des valeurs dans le rugby, des valeurs qui sont plus fortes que dans notre sport. Malgré que ce soit un sport où il y a un engagement physique très fort, parce que quand on les voit jouer aujourd'hui, c'est quand même un engagement qui est très fort. Il y a un profond respect. Il y a un profond respect, et on pourrait penser souvent que les décisions de l'arbitre, qui sont difficiles à prendre, et je pense qu'arbitrer aujourd'hui en match de rugby, c'est pas facile du tout, et bien elles sont rarement ou jamais contestées. Les joueurs, et bien, ils se plient à la décision, ce qui n'est pas le cas d'autres sports, où il y a souvent des réactions vis-à-vis de l'arbitrage qui sont défavorables, et bien malgré cet engagement fort, et bien il y a un respect très fort, et entre joueurs aussi, et lorsque le match est fini, et bien même s'il y a eu quelques coups, et bien ça y est, on passe la main dessus, on passe là-dessus et on continue avec une forte camaraderie.
On dit bien que le rugby, c'est un sport de hooligans joué par des gentlemen.
Par des gentlemen, voilà. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, en définitive.
Merci Andy Barégeau pour ce sujet. Alors, et on passe à mon sujet d'actualité qui est un petit peu moins rigolo. C'est le sujet du harcèlement scolaire qui m'a vraiment marqué, touché cette semaine. Et puis surtout cette plainte posée par des parents dont la fille de 15 ans s'est donnée la mort il y a 2 ans. Ils ont décidé de porter plainte contre le réseau social TikTok. Ils ont dénoncé la responsabilité de l'algorithme de la plateforme. J'ai trouvé que ça, c'était quand même assez terrible parce qu'effectivement, effectivement, le harcèlement des élèves, des enfants qui sont malmenés sur les cours de récréation, ça a toujours existé. Mais jusqu'à il y a une quinzaine d'années, quand la cloche de l'établissement sonnait, ça s'arrêtait. Et puis l'enfant rentrait chez lui et puis il était dans une espèce de bulle qui le protégeait. Et là, on voit bien qu'avec les outils de communication dont ils disposent, avec leur smartphone, ils sont en fait poursuivis jusque chez eux, jusque dans leur chambre, jusque vraiment dans leur sphère privée et intime par les personnes qui les harcèlent, qui leur font du mal. Alors là encore, il faudrait débattre peut-être longtemps sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement. Une dispute dans la cour, c'est pas un harcèlement. Mais enfin, des enfants qui sont malmenés à l'école, ça a toujours existé. Et là, on voit bien que en fait, le problème, c'est que il n'y a plus aucun lieu où on arrive à les protéger parce qu'en fait. En fait, eux-mêmes, ils ont les outils qui laissent passer le mal, si je puis dire. Ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit que, en fait, certainement, il y a un problème d'éducation et d'éducation aux outils de communication. Et comment protéger nos enfants? Comment protéger les élèves d'une école? Vous avez été enseignant, Gérard Cosa. Donc tout ça, ça doit peut-être vous-même, vous avez été témoin de harcèlement. Comment les enseignants peuvent veiller? Comment les parents peuvent veiller? Parce que attention, là aussi, il y a un rôle de la part des parents. On peut pas estimer que parce que les harceleurs sont à l'école, ça ne regarde que les enseignants, les chefs d'établissement. En fait, on voit bien que le problème, il se propage partout, dans l'école, quand ils sont à la maison, quand ils sont au sport, par exemple. Et ça, c'est vraiment un danger qui rattrape le jeune où qu'il soit.
Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu des moqueries. C'était plus des moqueries, autrefois. Vous savez, l'élève qui est un peu dans bon point, ou un autre qui porte des lunettes. Bon, alors, les camarades se moquent de lui, il appelle serpent à lunettes, ou des choses de ce genre. Je l'ai entendu. Mais je veux dire, bon, mais ça restait là, puis c'était bon enfant, et ça ne nous venait même pas l'idée de nous vexer. Enfin. Et maintenant, c'est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus pervers, effectivement, avec tous ces outils de communication qu'on ne peut pas contester, parce qu'on en a besoin, certes, mais il faut faire attention. Je m'amusais souvent à dire aux élèves, quand on parlait de leur portable, que c'était pas des moyens de communication, c'était des moyens d'égo-munication. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir, quoi, un peu. On est là...
Ils se font plaisir, mais ils ne se protègent pas du tout, en fait. Ils sont très vulnérables, ils n'en ont pas conscience, et en fait, ils ouvrent grand la porte à...
Ils ouvrent grand leur porte, en fait.
Mais c'est la question peut-être aussi de l'accès à ces outils-là. Enfin, ouais. Peut-être qu'un gamin qui a 10 ans, il n'a rien à faire là-dessus. Enfin, ouais. Clairement, je pense qu'il y a une responsabilité de Facebook, de TikTok, d'Instagram ou autre, parce que justement, ils devraient limiter l'accès à un certain âge. Alors, quid avec une identification, puisqu'on en parle là, de lever l'anonymat aussi. Je suis clairement partisan à ce que les gens, puisque c'est un outil de discussion où les gens s'expriment librement, qu'ils le fassent en responsabilité. Donc, que ce soit tracé, qu'on ait accès à leur nom, leur prénom. Je pense que la levée de l'anonymat, déjà, c'est un premier point, parce que clairement, c'est une situation qui profite au harceleur, hein, clairement.
Et puis là, c'est très facile aussi pour n'importe quel enfant peut s'inscrire. Il dit n'importe quoi sur sa date de naissance. Il suffit de rendre compte de ça, enfin, de donner une date de naissance, c'est facile de tricher.
Non, c'est pour ça que je pense qu'il y a des moyens de donner une identification. Enfin, voilà, que ce soit avec un papier d'identité, tout le monde en possède, donc ça doit être possible. Puis il y a autre chose aussi, c'est la discussion avec ses enfants, les inviter à parler.
Donc la responsabilité des parents.
Mais alors, la responsabilité des parents, des personnes qui justement sont dans ces déviances et qui créent ces problèmes-là et mettent de l'huile sur le feu. Et aussi peut-être inviter aussi les enfants quand ça ne va pas à parler avant que justement ça aille trop loin. Parce que justement, ça permet de sensibiliser tout le monde, de sensibiliser peut-être des chefs d'établissement qui sont pas, ou des professeurs qui sont pas rompus à ces technologies-là. Enfin, ça va très vite. Moi, le premier TikTok, ça me dépasse. Pourtant, je suis pas.
Pourtant, vous êtes très jeune.
Je suis pas très jeune, plus trop, malheureusement. Ça passe aussi, mais c'est des outils qui vont vite. Qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas les codes. Et quelque part, c'est pour ça que les enfants doivent en parler et surtout que les parents doivent écouter. Et doivent prendre le temps, et je pense que voilà, il faut aussi que les parents sachent prendre leur temps avec leurs enfants.
Merci, on marque une pause, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec mes chroniqueurs Andy Barégeau, Gérard Croza et notre invité Michel Rico.